Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Le 30 août 2025, les élus du Congrès ont adopté une loi du pays portant amélioration des dispositifs d'échange automatique et de lutte contre la fraude fiscale, ainsi que la modernisation du contrôle de l'impôt. Cette loi concerne notamment les nouvelles obligations déclaratives sur les comptes à l'étranger, sur l'assurance vie, les portefeuilles de crypto-monnaies à l'étranger ou encore les trusts, mais elle entérine aussi le renforcement des pouvoirs de l'administration fiscale en matière de contrôle. Et c'est bien de cette loi dont nous allons parler aujourd'hui dans les jeudis de l'économie avec nos trois invités, Laurence Pédamont qui est avocate fiscaliste et en droit des sociétés, le directeur de la générale de la BCI Éric Viard et Virginie Rambeau qui est directrice de la conformité à la BCI. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour essayer de voir ce que compose cette loi, quelles sont aussi ses implications. Laurence Pédamont, il faut peut-être rappeler le cadre de cette loi, est-ce qu'elle fixe d'une manière générale d'abord ?
Alors, le cadre de cette loi, il faut le rappeler effectivement parce qu'il est important. En réalité, la Nouvelle-Calédonie se trouvait jusqu'à très récemment sur une liste grise de juridictions considérées comme non coopératives. Et dès 2017, il lui a été demandé d'engager des discussions pour qu'elle adopte des standards internationaux en matière notamment de comptes financiers et d'échanges automatiques d'informations. Et donc, des discussions ont commencé à avoir lieu. Elle a adopté, mais je pense que la BCI reviendra dessus, elle a adopté en 2018 une loi qui est entrée en vigueur en 2019 qui contraignait les institutions financières à déclarer les comptes bancaires détenus par des non-résidents. Et en 2022, il y a eu une évaluation par le Forum mondial de l'OCDE, qui est une instance internationale qui a été créée justement pour veiller à la transparence fiscale entre les juridictions et qui, ce forum international a fait une évaluation de la Nouvelle-Calédonie, a considéré que la réglementation fiscale adoptée par la Nouvelle-Calédonie était insuffisante. On a donc accordé un nouveau délai à la Nouvelle-Calédonie pour se mettre en conformité avec ses standards internationaux en matière de transparence fiscale et de coopération. Les événements de 2024 se sont produits, on a retardé ça et on a dit à la Nouvelle-Calédonie, vous avez jusqu'à la moitié de l'année 2025 pour vous mettre en conformité. D'où cette loi qui a été adoptée un peu in extremis le 30 août 2025 et qui a donc pour but, c'est dans l'intitulé même de la loi, de renforcer les échanges automatiques d'informations et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, outre ce point effectivement que vous avez évoqué de la modernisation des contrôles fiscaux dont nous parlerons plus tard.
Oui, on y viendra évidemment. Éric Viard, on peut dire que cette loi vient compléter un dispositif déjà existant et c'était aussi une nécessité pour la Nouvelle-Calédonie ?
Oui, alors effectivement, on est d'abord dans un dispositif, comme ça a été rappelé par Laurence, qui consiste à faire entrer la Nouvelle-Calédonie dans les standards internationaux. Donc c'est pas quelque chose qui est typique à la Nouvelle-Calédonie, c'est pas quelque chose qui a été, je dirais, inventé par les élus calédoniens. On rentre bien là dans un ensemble de dispositifs qui consiste à avoir beaucoup plus de transparence sur les flux. Et donc, je dirais que de ce point de vue-là, la Nouvelle-Calédonie n'est pas dans un régime anormal. Elle est dans un régime normal aujourd'hui des échanges qu'il peut y avoir au plan international. Ces lois, en fait, elles viennent d'abord des États-Unis. Ça a commencé avec FATCA et puis ça s'est développé sur l'Europe. Et bien entendu, aujourd'hui, la demande, c'est que l'ensemble des pays au niveau mondial se standardisent et rentrent dans ces dispositifs-là. C'était nécessaire parce que nous, en tant que banque, nous devons respecter la loi, nous devons appliquer ces mesures. Et donc, le texte qui a été voté en 2025 permet d'avoir un cadre beaucoup plus clair sur les obligations qui nous sont faites. Je pense que ça, c'est un point qui est important, et je laisserai Virginie compléter ces sujets-là, mais il est important de dire que, bien entendu, ça emporte quelques contraintes pour les établissements financiers et pour nos clients, mais encore une fois, il ne s'agit là que du respect de la loi et pas de mesures qui sont décidées par les banques ou qui seraient prises unilatéralement par les banques dans les échanges qu'ils ont avec leurs clients. Donc c'est une loi qui était essentielle pour avoir plus de clarté clarté sur ce que nous devions faire.
Avant de rentrer dans le détail de cette loi et de vous passer la parole, juste qu'on comprenne bien, Laurence Pédamont, qu'est-ce qui serait passé si la Calédonie ne s'était pas dotée de cet outil juridique ?
Alors, elle aurait continué à être sur cette liste grise, hein, des juridictions non coopératives. Et donc, par l'adoption de cette loi, elle a aujourd'hui un statut qui a été décidé par le Forum mondial donc de l'OCDE en septembre 2025, qui est un statut en cours de conformité. Donc elle n'est pas totalement considérée comme un État conforme, ou une juridiction plus exactement conforme, mais au standard, donc à cette norme commune internationale sur l'échange automatique d'informations concernant notamment les comptes financiers, édictée par le Forum mondial de l'OCDE. Mais elle est en cours de conformité. Il faut dire, effectivement, je préciserai également une chose, c'est que l'OCDE regroupe environ une quarantaine de pays. Et le Forum mondial de l'OCDE a donc édicté ses normes internationales, ses standards internationaux pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et mettre en place ces échanges automatiques d'informations, notamment sur les comptes financiers. Et y ont adhéré plus d'une centaine d'États et de juridictions. Donc ça veut dire que effectivement aujourd'hui, maintenant, comme le disait Éric Viard, c'est mondialement. Alors on a effectivement des territoires qui y échappent, mais enfin c'est un phénomène qui se mondialise et qui va finir par concerner quasiment la plus grande partie des États et des juridictions que l'on connaît dans le monde.
Alors on va rentrer un peu plus dans le détail de cette loi et pour voir aussi ses conséquences et ses implications. Virginie Rimbaud, on a déjà parlé depuis début de cette émission d'obligation déclarative ou d'échange automatique, ça veut dire quoi exactement et ça concerne quoi ?
C'est un échange automatique d'informations. En effet, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Quand un client rentre en relation avec un établissement bancaire, dorénavant, parce qu'en fait la nouvelle loi du pays avait venu renforcer des dispositions qui existaient donc depuis 2019, donc notre client a l'obligation de venir nous déclarer s'il a d'autres résidences fiscales que la Nouvelle-Calédonie. S'il ne le fait pas, la banque n'a pas le droit de lui ouvrir un compte. Et ça, c'est des dispositions qui sont communes.
Ça, c'est pour l'ouverture de nouveaux comptes.
D'un nouveau compte.
Voilà. Ça ne concerne pas les comptes déjà ouverts.
Alors, sauf qu'il va y avoir une petite surprise pour les comptes déjà ouverts, c'est que les établissements ont comme obligation d'aller détecter s'il y a, pour notre client, des critères d'externalité. Alors, un critère d'externalité, ça veut dire quoi ? C'est qu'il y a un doute que potentiellement, il pourrait avoir une autre résidence fiscale que la Nouvelle-Calédonie. Donc on a toute une batterie de requêtes qui tourne et quand on va interroger notre client, il va falloir qu'il nous réponde. S'il ne nous répond pas, il va être considéré comme étant un client récalcitrant. Et là, on va avoir nous comme obligation d'aller le déclarer auprès de la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie. Et ce qui va entraîner pour lui, mais je pense qu'on reviendra peut-être sur certains détails, un risque de pénalité, de devoir payer une amende en fait. Donc l'objectif, c'est que tout le monde comprenne bien à la fois les enjeux, ses obligations, et peut-être qu'on rentrera, certains clients peuvent avoir des doutes sur leurs obligations, est-ce que j'ai ou pas une résidence fiscale qui ne serait pas que la Nouvelle-Calédonie. Là où il faut aussi se rassurer, c'est qu'il y a des pays avec lesquels ça ne va pas impacter. Typiquement, la France. Voilà, il n'y a pas d'échange automatique d'informations avec la France. Donc, en gros, ce sont des obligations pour et les banques et les clients.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Laurence Pédamont ?
Non. Je crois que c'est une description assez complète. Effectivement, il y a eu cette loi du pays de 2018 qui a imposé déjà des obligations donc aux institutions financières qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2019, ainsi que vous l'avez dit. Et puis, il y a la loi de 2025 qui a créé de nouvelles obligations encore pour les institutions financières avec effectivement cette obligation de signaler à l'administration fiscale calédonienne ce qu'on appelle les titulaires récalcitrants. En réalité, ce qui se passe, c'est que si jamais vous ne répondez pas aux demandes qui vous sont adressées par l'établissement financier dans lequel vous disposez d'un compte bancaire. Il y a une première demande, une deuxième demande qui peut être adressée par la voie postale ou par mail. Et si vous n'y répondez pas, automatiquement, les banques, les institutions financières, sous peine de sanctions fiscales elles-mêmes, sont tenues d'en informer l'administration fiscale calédonienne. Mmh. Auparavant, avant l'entrée en vigueur de cette loi de 2025, les institutions financières, elles étaient tenues de déclarer à l'administration fiscale les comptes bancaires détenus par des non-résidents. Donc, en fait, quel est le schéma ? Eh bien, l'institution financière concernée voit qu'elle a un titulaire de compte qui ne réside pas en Nouvelle-Calédonie. Elle en informe l'administration fiscale calédonienne, qui elle-même en informe, en vertu de cette norme CRS hein, dont je vous parlais sur l'échange automatique d'informations, notamment pour les comptes financiers, en informe l'administration fiscale concernée du territoire de résidence de ce titulaire de compte. Voilà.
Alors, donc, oui, qu'on comprenne bien, parce que vous avez parlé de possibilités de deuxième foyer fiscal. Ça concerne, par exemple, on a un Calédonien, un compte en métropole, est-ce qu'il est considéré comme deuxième foyer fiscal ou est-ce que ça concerne uniquement les comptes à l'étranger ?
Ça concerne les comptes à l'étranger sur une liste de pays, en fait,
qui est déterminée.
Voilà, exactement. Il y a à peu près 75 pays avec lesquels la Nouvelle-Calédonie, en fait, a contractualisé, on va dire ça comme ça, cet échange automatique d'informations. La subtilité, c'est que chaque pays, chaque juridiction a ses propres critères pour aller déterminer si vous êtes ou pas résident fiscal de son territoire. On prend une chose extrêmement basique et simple, les États-Unis se sont pas trop embêtés. À partir du moment où vous êtes né aux États-Unis, même si vous n'y avez vécu qu'une semaine, vous êtes considéré ad vitam aeternam résident fiscal américain.
Voilà. Alors ça concerne, on l'a dit, les comptes à l'étranger, mais aussi l'assurance vie, les portefeuilles de crypto-monnaie à l'étranger, mais aussi les trusts. Ça veut dire quoi tout ça, Irivia?
En fait, ça veut dire que vous devez, dans les nouvelles déclarations fiscales à venir, indiquer à l'administration fiscale tout ce que vous détenez en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Quel que soit le support sur lequel, effectivement, vous détenez des avoirs. C'est-à-dire qu'effectivement, l'obligation est faite. Alors, cette partie-là, je dirais que c'est un complément de loi qui n'a pas d'incidence directe pour nous, établissements bancaires, mais par contre, ça a une incidence forte pour les résidents fiscaux calédoniens qui, s'ils détiennent des avoirs ailleurs, ont l'obligation à partir, je crois que c'est la déclaration 2025, d'indiquer l'ensemble de ses avoirs, dans quel pays et sous quelle forme ils les détiennent.
Alors la question, évidemment, ils doivent l'indiquer, mais ça veut dire aussi qu'ils vont être taxés sur sa déclaration, alors, Laurence Bédamont.
Alors, non. Alors, je vais simplement résumer assez brièvement.
Quand je dis taxé, c'est par les impôts.
Oui,
hein,
non, bien évidemment. Non. Mais je vais quand même résumer brièvement le contenu de cette loi du pays, donc de d'août 2025, puisqu'il y a deux pans. Il y a ce pan qui est de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, et puis améliorer les dispositifs d'échange automatique d'informations. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la modernisation des contrôles fiscaux, et on y viendra plus tard. Mais sur cette première partie, eh bien, il y a un calendrier d'entrée en vigueur de ces dispositions qui est distinct selon la disposition concernée. Donc, est entrée en vigueur au 1er septembre 2025 l'obligation de déclarer ce qu'on appelle les dispositifs transfrontières. Ce sont en réalité des dispositifs fiscaux qui seront considérés comme potentiellement agressifs, que l'administration fiscale veut pouvoir contrôler, et vous êtes tenu, dès lors que vous intervenez sur ce dispositif-là, en votre qualité d'intermédiaire, de conseil, de concepteur d'un tel dispositif, vous êtes tenu de le déclarer à l'administration fiscale, sous peine, là également, d'une amende fiscale comme celle encourue par les établissements financiers s'ils ne se soumettent pas aux obligations qui sont les leurs. Au 1er janvier 2026, l'obligation concerne la déclaration des trusts et des structures équivalentes qui sont créées hors de Nouvelle-Calédonie par des contribuables et qui, à ce moment-là, donc, les oblige. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un trust ou une structure équivalente ? Un trust, c'est un lien juridique. Ça n'est pas une entité, hein. Elle n'est pas dotée de la personnalité morale. C'est un lien juridique entre plusieurs personnes. D'abord, le constituant. Ensuite, l'administrateur, celui qui va gérer le trust ou la structure concernée. Et puis, le bénéficiaire. C'est-à-dire que vous avez un constituant qui affecte un bien ou des droits à ce trust, de façon à ce que les revenus générés par ce trust, par ce bien ou ces droits, pardon, ces revenus soient attribués aux bénéficiaires, alors un ou des bénéficiaires concernés. Et là, à ce moment-là, effectivement, l'administration fiscale, ça l'intéresse de savoir quels sont les trusts ou structures équivalentes qui ont été créées en dehors de la Nouvelle-Calédonie par des Calédoniens.
Ça, c'est depuis le 1er janvier 2026.
Ça, c'est depuis le 1er janvier 2026. Et puis, à compter du 1er janvier 2027, trois autres déclarations à faire, et ça concerne plus directement les contribuables eux-mêmes. C'est d'abord les comptes financiers que vous détenez en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Alors, la loi du pays, elle vise l'étranger, mais en réalité, ça n'est pas que l'étranger. C'est en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que même les comptes que vous détenez en France, vous devez les déclarer. Et qui sont visés ? C'est le contribuable plus les membres de son foyer fiscal. Et également les sociétés qui n'ont pas la forme commerciale. Donc ça, ce sont les comptes financiers. Ensuite, vous devez déclarer les portefeuilles d'actifs numériques, donc tout ce qui est crypto-monnaie, les tokens ou jetons, etc. Là aussi, ce sont les personnes physiques. Et puis, toutes les entités, qu'il s'agisse de sociétés commerciales ou pas. Et enfin, il y a les contrats de capitalisation ou de placement, c'est-à-dire les assurances-vie, qui, elles, à ce moment-là, ces contrats de placement, ce sont les contrats qui sont souscrits en dehors de la Nouvelle-Calédonie ou de la France en tant que telle. Mmh. Voilà. Et tout cela, toutes ces déclarations sont à faire. Et si vous ne les faites pas, bah vous encourez des amendes fiscales qui peuvent aller de 200 000 francs à 600 000 francs jusqu'à 1,2 million, notamment lorsque vous détenez ces biens-là dans des juridictions qui n'ont pas conclu de convention d'assistance administrative avec la Nouvelle-Calédonie. Mmh. Donc ce sont quand même des montants qui sont importants.
Alors l'ensemble de ces déclarations, Éric Vert, elles se font auprès des banques directement lorsqu'elles sont sollicitées ou auprès des services fiscaux ?
Alors, c'est les déclarations dont on vient effectivement de parler se font directement auprès des services fiscaux. En fait, si vous voulez, dans cette loi, il y a deux volets. Il y a des obligations qui incombent aux banques et des obligations qui incombent
aux particuliers
en tant que, effectivement, citoyens fiscalisés en Nouvelle-Calédonie. Et donc, les derniers éléments qui ont été cités là, c'est une obligation qui est faite aux résidents calédoniens. Et donc, c'est eux qui doivent déclarer directement aux services fiscaux, au travers de leur déclaration fiscale, la détention des avoirs, des biens et autres structures qu'ils peuvent avoir hors de Nouvelle-Calédonie.
On est dans la période de déclaration des revenus, hein, 2025. Est-ce que ça veut dire que dans les nouvelles feuilles de déclaration de revenus, il y a déjà des cases correspondant à ces obligations, Laurence Pédamont ?
Alors non, parce que, effectivement, comme le disait Éric Viard, ces dernières obligations déclaratives que je vous ai citées, les comptes financiers, les portefeuilles d'actifs numériques et les contrats de placement ou de capitalisation, ça n'entrera en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2027. Donc à ce moment-là, on trouvera sur le site de l'administration fiscale un formulaire. Pour les dispositifs transfrontières et les déclarations des trusts, là, effectivement, vous avez des liens. Quand vous allez sur le site de l'administration fiscale, vous avez un lien qui vous permet de rentrer dans la déclaration et vous compléter les informations nécessaires.
Est-ce que les banques ont dû s'adapter, Éric Viard, à ces nouvelles dispositions en interne ? J'imagine que le travail a été conséquent pour pouvoir organiser tout ça, surtout qu'il y a une partie d'échange automatique. Donc, on imagine que les services informatiques ont été sollicités.
Oui. C'est beaucoup d'investissements, à la fois effectivement au plan technique, informatique, pour pouvoir réaliser ces échanges automatiques d'informations. C'est beaucoup d'investissements aussi au plan humain, parce qu'il s'agit effectivement de protéger nos collaborateurs qui ne font encore une fois qu'appliquer la réglementation, leur donner le discours qui va bien pour l'apporter à leurs clients, leur expliquer la loi, leur faire comprendre ce qu'il y a derrière, de façon à ce que l'échange avec nos clients soit le plus fluide, le plus transparent possible. C'est un point qui est important. C'est important parce que, effectivement, je crois qu'à ce stade-là, il est important de dire que les collaborateurs des banques ne sont pas des fiscalistes. Ce sont des employés de banque qui font leur métier, qui respectent la réglementation. Et donc, il y a un stade en termes d'information à la clientèle, de nécessité pour le client d'avoir les bonnes informations, où il faut passer par des spécialistes, des fiscalistes, pour avoir les bonnes réponses. Mmh. Nous ne sommes pas, ou dans de très rares cas, en mesure d'apporter les informations suffisantes sur des sujets qui sont assez ardus et qui demandent une spécialisation.
Alors, l'autre aspect, l'autre partie de cette loi, hein, on l'a dit, c'est le renforcement des pouvoirs de l'administration fiscale en matière de contrôle. Ça aussi, c'est une demande assez récurrente, hein, des demandes de transparence ou en tout cas de contrôle plus serré peut-être que ce qui existe aujourd'hui. Cette loi, elle introduit de nouveaux dispositifs, Laurence Pédamont ?
Oui, effectivement. On connaît la vérification de comptabilité qui est classique, hein, qui se fait en principe dans les locaux, enfin qui se faisait jusqu'à présent dans les locaux de l'entreprise. Aujourd'hui, la vérification de comptabilité, elle peut se faire dans tout autre lieu déterminé d'un commun accord avec le contribuable et, à défaut d'accord, dans les locaux de l'administration. Donc, c'est déjà une amélioration pour l'administration fiscale. Autre chose, c'est qu'il y a une nouvelle procédure de contrôle mise en place qui s'appelle l'examen de comptabilité, qui est distincte donc de la vérification de comptabilité, et elle s'applique aux contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés. Vous avez dû déjà parler de ce qu'on appelle les fichiers des écritures comptables, les FEC, lorsque l'administration fiscale vérifie une entreprise donc qui recourt à des logiciels comme Sedge ou autre. À ce moment-là, effectivement, elle demande que les écritures fiscales, qu'elle demande une impression de ces FEC de façon à pouvoir y avoir accès. Et là, dans le cadre de l'examen de comptabilité, elle va demander au contribuable de lui fournir ses FEC et elle va pouvoir les analyser et les vérifier dans ses locaux directement. Alors, c'est quand même un dispositif qui est extrêmement encadré. L'administration fiscale a 6 mois pour indiquer si elle entend redresser ou pas et émettre une proposition de rectification, oui. Puisque ça a changé. Ne s'appelle plus la notification de redressement. On a changé ça pour appeler ça désormais la proposition de rectification. Donc, pour émettre une proposition de rectification, et si elle ne le fait pas dans le délai de 6 mois, elle doit détruire... Comme en tout état de cause, elle doit détruire les fichiers d'écriture comptable dont elle s'est servie pour procéder à son contrôle. Il y a également une amélioration notable qu'il convient de signaler, qui est la coordination des procédures. Lorsque, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un contrôle qui s'appelle notamment la VASF, qui est une vérification approfondie de votre situation fiscale d'ensemble, elle découvre des éléments qui concerneraient une autre activité, elle peut coordonner les procédures et continuer son contrôle. Sans avoir à lancer un nouvel avis de vérification et à dire qu'elle étend le contrôle fiscal à autre chose. Alors ça, c'est aussi une amélioration notable, notamment lorsqu'elle découvre une activité occulte. Et bien évidemment, dans le cas par exemple d'une VASF, elle peut à ce moment-là continuer son contrôle. Et puis, autre point important, c'est la charge de la preuve. Lorsque vous avez un défaut de comptabilité ou une comptabilité irrégulière, la charge de la preuve, alors d'abord, l'administration fiscale va devoir dresser un procès-verbal des éléments qu'elle a constatés. Elle va devoir le faire signer par le contribuable. Et la charge de la preuve, lorsqu'elle va émettre sa proposition de rectification, la charge de la preuve pèsera désormais sur le contribuable. Donc c'est un renforcement de la charge de la preuve qui est quand même assez essentiel. Et puis enfin, le renforcement des sanctions, puisqu'on a notamment, par exemple, en cas de refus de communication de documents, le montant de l'amende est passé de 200 000 francs à 1 million. Donc, autant vous dire que ça va inciter les contribuables.
C'est un peu dissuasif quand
même. Exactement, ça va inciter les contribuables à transmettre les informations demandées.
Vous voulez rajouter quelque chose, Éric Vert, sur ce point ?
Non, sur ce point, rien à rajouter. C'est encore une fois, bon, c'est une loi, elle s'impose à tous. On se doit de la respecter, mais effectivement, je pense que ça contribue aussi à inciter chacun à être de plus en plus structuré dans ces domaines-là. On ne peut plus se permettre, face effectivement à cette nouvelle réglementation, d'agir de façon trop simple ou trop légère. Il faut mettre en place des structures autour de l'entreprise, autour du contribuable, de façon à pouvoir répondre aux exigences de l'administration fiscale.
Alors, cette loi crée aussi des contraintes, on l'a vu, pour les banques, mais est-ce qu'elle sécurise aussi, quelque part, leur fonctionnement ou leur activité, Rivière ou Virginie Rambaud ?
Virginie Rambaud. Sécuriser, ça, c'est une excellente question. Je pense pas. Par contre, il faut plutôt avoir une approche d'un cercle vertueux. En réalité, c'est ça. Quand on veut lutter contre l'évasion fiscale et œuvrer pour la transparence fiscale, il faut le voir vraiment sous l'angle positif. C'est une contrainte, certes, mais ça doit aller pour le bénéfice de la Nouvelle-Calédonie et des pays avec lesquels nous allons échanger.
Peut-être que de nombreux auditeurs qui nous écoutent ne savent pas que cette loi a été adoptée en août 2025. Pourtant, il y a des dispositions qui vont les concerner assez rapidement. Il y a un endroit où on peut trouver la loi, où on peut se renseigner. Vous l'avez dit, il faut aller voir un fiscaliste si on a des doutes,
forcément. Non. Mais sur le site de l'administration fiscale, il y a un résumé de la loi qui est extrêmement bien fait. Vous avez également accès sur Juridoc au JONC. Vous avez cette loi qui a été publiée, bien entendu, au JONC. Donc, il y a des moyens de, effectivement, d'obtenir des informations complètes, intéressantes sur cette loi.
Et sans aller voir son banquier nécessairement, Éric Vierre.
Oui, on peut, bien sûr, j'incite même à ce qu'on vienne voir le banquier, c'est important de venir voir son banquier. Mais non, par contre, effectivement, il y a un stade, un niveau de demande auquel on ne pourra pas répondre. Donc c'est en ça qu'on disait qu'à un moment donné, il faut, en fonction de la complexité des avoirs détenus, des biens ou des participations dans les sociétés détenues, il faut voir des spécialistes, un fiscaliste qui va pouvoir vous donner les bonnes informations et vous diriger correctement dans les déclarations que vous avez à faire. Voilà, mais bien sûr, nous restons tout à fait disponible pour aiguiller nos clients et quand nous le pouvons, les accompagner dans ces dispositifs-là, bien sûr.
Voilà, des obligations déclaratives qui, pour certaines, sont automatiques, qui, pour d'autres, seront à la charge, on l'a bien compris, des contribuables. Et ça rentrera en vigueur pour la prochaine déclaration de revenus, 2026, c'est bien ça, Laurent?
Voilà, pour les contribuables, ouais. Sur les portefeuilles, etc., les contrats, les comptes bancaires, etc., tout cela entrera en vigueur au 1er janvier 2027, exactement.
Le contribuable, c'est un citoyen calédonien, c'est aussi un chef d'entreprise.
C'est un résident.
Ça concerne aussi les entreprises.
Oui, ça concerne également pour les portefeuille d'actifs numériques. Cela concerne également les sociétés calédoniennes, effectivement. Mais c'est effectivement des obligations qui s'imposent aux résidents calédoniens, qu'il s'agisse selon l'obligation déclarative concernée, qui s'impose soit aux personnes physiques exclusivement, soit aux personnes physiques et aux sociétés non commerciales, soit aux personnes physiques, associations, sociétés commerciales également. Donc effectivement, il faut regarder la loi s'agissant de chacune des obligations déclaratives concernés.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans cette émission pour nous éclairer sur cette loi qui a été donc adoptée le 30 août 2025.